À ce moment-là, j'errais beaucoup dans les Finistères, dans la région des Abers, au nord de Brest. C'est là qu'un jour je suis tombée sur une maison isolée, abandonnée car victime d'abord d'un incendie, ensuite d'une inondation. Dans cette masure, j'ai découvert un manuscrit très accidenté. Une grande partie des feuillets était totalement illisible, mais certains étaient déchiffrables, et quelques-uns encore intacts. Le manuscrit ne portait pas de nom d'auteur, mais il avait un titre. « Annales de la République du Ploukistan ». Le nom évoque évidemment tous ces stans, petits mondes dont certains déjà disparus des cartes, éparpillés dans le Caucase, entre la mer Noire et la Caspienne, et au-delà. Le Daghestan, le Kirghizistan, le Baloutchistan, le Kazakhstan. Dans l'esprit de l'auteur, Ploukistan était sans doute d'abord un nom affectueux pour la Bretagne. Mais au fil des pages, il flotte entre une France marginale, les franges de l'Europe, toute une partie submergée du monde. Ce qui était évident et curieux, c'était que l'auteur était obsédé par le Caucase. Ajoutons à cela, dans le contexte que nous explorons, que le Caucase est le plus grand borderland de l'Europe. Il est hors de doute que toutes sortes de catastrophes, à dimension variable, se profilent depuis un certain temps à l'horizon. Sur le front démographique, le front sanitaire, il va sans doute falloir dorénavant qu'une dose de catastrophisme soit sécrétée et stockée dans le métabolisme humain. Faut-il insister sur le fait que ce catastrophisme-là n'a rien à voir avec un quelconque discours démoralisant? Au contraire, et c'est là le paradoxe initial, il inaugure un champ dynamique au-delà des illusions et, comme l'éthique et l'esthétique, de la morale. Parlons maintenant de ce champ dynamique paradoxal. « Le crépuscule excite les fous », dit l'auteur des Fleurs du Mal. « Je ne suis pas fou, du moins pas encore. » Composant cette caucaserie à la limite des terres quadrillées, raisonnables, je suis peut-être sur les bords, diront certains. Mais non, même pas, grâce à une thérapeutique radicale dont je parlerai plus loin. Donc, fou, je ne le suis pas. Mais je fais beaucoup de rêves fous, comme si tout un cosmos essayait de se former dans ma tête. Je plonge dans un onérisme océanique qui laisse loin en arrière non seulement Freud et Jung, mais l'extraordinaire Thalassa de Ferenczi. Et l'autre soir, au crépuscule des dieux et des idoles, dans la pénombre de mon atelier océanique, j'ai fait un des rêves les plus fous de mon existence. J'ai rêvé que j'avais fondé un monastère. Rassurez-vous, rien de religieux, rien d'ecclésiastique. Imaginez, dans un lieu reculé des Côtes d'Armor, un vieux phare abandonné. Grâce à la partition manuscrite d'un morceau de Kéolmor, la grande musique, composé par un de mes ancêtres du côté de l'île de Skye, partition que j'ai vendue à l'Académie des archives interceltiques de l'Orient, j'ai pu acquérir ce phare. Et c'est là que j'ai fondé mon monastère, le dotant d'une bibliothèque bien fournie, grâce à des livres récupérés dans de vieux manoirs, dont les anciens habitants étaient des archilettrés, alors que leurs descendants ne lisaient plus que des futilités, et le baptisant pour plusieurs raisons, dont je parlerai aussi plus tard, le monastère des fous, avec l'idée d'en faire un lieu de résistance rieuse, de méditation originale, d'ironie transcendantale et de sagesse salée. Au réveil, j'ai su immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un de ces vagues mélanges psychotropiques que l'on connaît, mais d'un rêve projectif, d'une espèce très rare, ouvrant un champ de grande dimension. J'ai dû avoir mis une pierre d'Éthiopie sous mon oreiller, ou bu un caucasien de trop, breuvage explosif, vodka polonaise et lait de chèvre des monts d'Arrée, inventé par un de mes voisins. Si mon monastère évoque l'abbaye de Thélem de Rabelais, il a aussi une parenté évidente avec le vieux couvent, rêvé par le breton Tristan Corbière, où il pourrait vivre en dehors de l'humaine piste. Ce rêve d'ancien couvent avait mené chez lui, en s'amplifiant, au casino des Trépassés, où il invitait Homère, Rabelais, Jean Barthes, le docteur Faust, saint Antoine, Job le lépreux, et d'autres anciens vivants à venir partager avec lui une haute vie sauvage dans le désabonnement universel. Mais mes références rêveuses ne s'arrêtaient pas là. Les lecteurs lettrés, nous sommes encore quelques-uns de par le monde, se rappelleront les propos de Nietzsche dans ses Considérations inactuelles concernant la nécessité, à une époque de délabrement total, de créer des monastères d'un nouveau type où se poursuivrait une expérience fondamentale, éventuellement fondatrice. On pourrait prolonger la piste des filiations souterraines en se rappelant, par exemple, que la première ébauche de l'éducation sentimentale de Flaubert, esprit essentiellement solitaire et extravagant, dès qu'on le sort de l'histoire figée de la littérature, s'intitulait « Mémoire d'un fou », et que le nom réel de son héroïne romanesque, rencontrée à Trouville, s'appelait Elisa Foucault, qui allait avoir une descendance notoire dans la sociophilosophie. Si j'ai décidé, en fin de compte, de nommer mon monastère onirique et virtuel le Moustier des Fous, c'est d'abord parce que j'éprouve une attirance très forte, presque atavique, pour le vieux français, rude, railleur et fantasque. D'où Moustier à la place de monastère. Quant au mot fou, si je l'emploie dans le sens habituel de hors cadre et hors règle, il évoque aussi pour moi ces magnifiques oiseaux de mer qui savent plonger profond et voler haut. Plonger profond et voler haut. Voilà le propos. Ce qui m'amène, selon la logique différentielle que j'affectionne, à évoquer, après la fondation, une praxis. Un monastère se doit de proposer des pratiques de méditation, voire des rituels. Le Moustier des Fous a les siens. Si je dis que depuis mon enfance, je suis un adepte de la douche écossaise, cela n'étonnera personne. Mais je voudrais présenter ici, avec précaution, une pratique d'une toute autre envergure. Une thérapeutique archi-radicale. On a parlé longuement, à l'époque dont nous sommes aujourd'hui témoins, de l'agonie, du mal du siècle, qui a donné lieu à toute une littérature langoureuse. Mais plus profond que n'importe quel mal du siècle, il y a le mal des siècles. Son origine, c'est le poids oppressif de l'histoire, et il se manifeste par une nausée, un dégoût si énorme que, comme disait l'auteur désespéré d'une saison en enfer, on a souvent envie de rien d'autre que d'un sommeil bien ivre sur la grève. De ce dégoût profond, je me suis guérie grâce à une thérapeutique dont j'ai découvert les éléments dans un vieux rapport scientifique. J'hésite à en parler, car son usage inconsidéré pourrait être fatal pour des constitutions faibles. Mais, puisque cette information peut intéresser, ne serait-ce que sur le plan allégorique, des esprits moins extrémophiles que moi, voici. Le 27 avril 1897, à Nantes, dans un laboratoire de physique pathologique, a eu lieu l'expérience suivante. On prend un chien malade. On le saigne à blanc, par l'artère fémorale, ce qui, en temps normal, entraîne une mort certaine. Non seulement on soustrait à l'organisme une partie considérable de son milieu vital, mais on enlève aussi le tissu sanguin chargé de l'oxygénation de l'organisme. La fonction respiratoire est donc touchée dans sa partie vive. Bref, cette expérience place le chien à la limite des conditions compatibles avec la vie. Immédiatement après la saignée, on injecte, lentement, par la veine saphène, une quantité équivalente d'eau de mer. L'animal présente d'abord un grand abattement. Mis sur pattes 16 minutes après la fin de l'injection, il se met à marcher. 10 heures plus tard, il trotte. Le 5e jour, l'animal présente un aspect plus vif qu'avant l'expérience, et même exubérant, comme s'il avait trouvé avec l'eau de mer un fluide vital supérieur à sa constitution habituelle. Je suis autant opposée à la vivisection, aux expériences pratiquées de manière souvent absurde et abjecte sur les animaux que mon correspondant gallois, Melvin Glamorgan. Mais je dois avouer que l'expérience que je viens de décrire m'a tellement intéressée et impressionnée que j'ai décidé de me l'appliquer à moi-même. Okéanisation. Le résultat ? Une énergie mentale supranormale et une capacité de travail extraordinaire. On ne peut pas vivre sur la côte armoricaine sans continuer à ne rien savoir de ces gueux de la mer que furent les frères de la côte. Et il va sans dire que nous ne pouvons nous contenter ici d'histoires de pirates hollywoodiennes ou d'aventures corto-maltésiennes. Alors on plonge dans les classiques. L'histoire des aventuriers flibustiers, d'Exquemelin, ou histoire générale des plus fameux pirates, d'un certain capitaine Charles Johnson. Et on songe. On songe à tout ce qui se passait sur mer et sur terre, entre Trinidad et les Vierges, entre les Caïmans et les Carolines. C'est une histoire pittoresque, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont des affaires plus obscures, des choses mentales. Commençons tout de même par l'aspect pittoresque. Parmi cette bande mobile et diverse se trouvaient des libertaires licencieux, des utopistes sauvages, des déserteurs et des sociopathes. Qu'il s'agisse de pirates, de boucaniers ou de flibustiers, les équipages comportaient, outre les matelots, un capitaine, un quartier-maître, un navigateur, un voilier, un chef d'équipage, un artificier, un charpentier et un chirurgien. Si on manquait de chirurgien, le charpentier le remplaçait. Et des musiciens. On peut suivre leurs traces partout, mais surtout dans certaines îles des tropiques du Cancer et du Capricorne. Passons maintenant aux choses mentales. Je pense en particulier à ce qui se produisit un soir de novembre 1718 dans une taverne de la petite île d'Ocracoke, située dans les Outer Banks, au large du littoral de la Caroline du Nord. Tout en éclusant force bouteilles de vin de Madère, le capitaine Edward Teach était en train de discuter avec son compagnon, son frère, Joe Malaval, dit Bonnet Rouge, natif de Quimper. De quoi parlait-il ? La réponse à cette question se cache sous le terme « bonnet rouge ». Pour ses compagnons de bord, Malaval portait le nom de bonnet rouge simplement parce qu'il arborait sur son chef un bonnet rouge. Mais lui-même savait que s'il portait un bonnet de cette couleur, ce n'était pas seulement par goût vestimentaire. C'était en souvenance du mouvement breton des bonnets rouges de 1645, auquel il avait peut-être participé, lui ou des membres de sa famille. Et les Celtes, comme l'on sait, ont la mémoire longue. Le mouvement des bonnets rouges, basé sur un sentiment antiseigneurial grandissant, eut son départ dans une protestation contre un impôt sur le sel imposé par Louis XIV. Avant d'être atrocement réprimé par l'envoyé de Louis, le duc de Chaulnes, toute une série de massacres, d'incendies, de viols, suivis par la pendaison de centaines de rebelles et l'envoi aux galères de centaines d'autres, les bonnets rouges eurent le temps d'élaborer un texte admirable et drôle intitulé « Le Code paysan ». Le Code paysan, règlement fait au nom de la liberté armorique par les nobles habitants des 14 paroisses unies du pays armorique, situées depuis Douarnenez jusqu'à Concarneau, est beaucoup plus qu'un cahier de doléances. Il a une vision lucide et un humour gai qui manque aux déclarations qui allaient être faites à Paris 100 ans plus tard, à l'époque de Robespierre. Un certain esprit armoricain soufflait d'ailleurs pendant des années, ici et là, dans la mer des Caraïbes et dans le golfe du Honduras. Et ça discutait ferme dans les tavernes du port de New Providence, dans les Bahamas, de Béquilla dans les Grenadines ou de La Havane à Cuba. C'était la République des pirates, qui flottait comme une idée océanique au-dessus de plus d'un bateau opérant dans les Antilles, sur la côte est américaine, dans les baies de Key West. Je n'en dis pas plus. Je me tais, comme Malaval a dû beaucoup se taire, sauf de temps à autre, devant une ou deux bouteilles de Madère. La suite se passe dans les profondeurs abyssales. Mais revenons à la surface, au présent, et au champ du possible, même improbable. Je vais me risquer à parler d'un peuple pélagien. Première approche du peuple pélagien, ceci de Michelet dans son tableau de la France. La dure Bretagne est la force de la France entassée au bout de la France. Un pays étranger à la France, justement parce qu'il est resté fidèle à notre état primitif. Et puis il y a ceci, d'Eugénio d'Ors, dans son essai sur le baroque. Finistère, la Bretagne, la Galice espagnole, le Portugal, les premières îles de l'océan. Au fond de leur âme, la panique. La panique, acquise immémorialement du temps où ces terres se trouvaient au bord d'une mer à laquelle on ne connaissait pas de limites. On n'occupe pas impunément une loge d'avant-scène dans le théâtre du mystère. Pour ma part, je mets à l'écart tout théâtre, trop spectaculaire à mon goût. À la place de panique, je dirais un certain pandémonisme, terme dérivé de daimon, au vieux sens grec, puissance de l'esprit. Et par ailleurs, il n'est pas question de se primitiviser, mais d'être à la fois, disons, archaïque, proche des principes, et anarcho-avancé. Deuxième approche, ceci, que j'ai trouvé dans les carnets de Léon Tolstoï. Cela se passait l'été de 1896. Tolstoï s'était promené à travers champs. Partout les grasses terres de gros propriétaires fraîchement labourées, avec des sillons bien rectilignes, bien réguliers, tout préparé pour l'agriculture. Pas une seule plante sauvage, pas une herbe folle en vue. Quelle force de destruction dans l'humanité, pensait Tolstoï. Combien d'êtres vivants n'a-t-elle pas anéantis ? Et il prend le chemin du retour à la maison. Mais voilà qu'au bord de la route, dans le fossé, il voit un chardon ordinaire, celui que l'on appelle en russe « repeyi », le tatar. La touffe de chardon avait 3 pouces. L'une était brisée, écrasée par une roue, et sa fleur, pâle, pendait. Une autre pousse était brisée, elle aussi, et couverte de boue. Ce qui restait de sa fleur était noir. La troisième était également couverte de boue, mais encore vivante, et portait une fleur vigoureuse. Ce chardon résistant rappela à Tolstoï un homme dont il avait entendu parler quand il était officier dans l'armée du Caucase. Un avare, habitant du Daghestan, pays des montagnes en turc, qui, des années durant, avait résisté à la pacification de l'empire du tsar. Il s'appelait Hadji Murat, et Tolstoï raconta sa vie dans un récit qu'il ne publia jamais de son vivant, qu'il garda presque secret. Quelles qu'aient été ses activités et ses sentiments dus aux circonstances, Hadji était essentiellement une plante sauvage, et c'est cela que Tolstoï, au fond de lui, là où il ne met pas l'histoire en scène, admirait le plus, dont il regrettait la rareté, voire l'absence. Dans mon entourage armoricain vivent plusieurs de ces plantes sauvages. Ces individus constituent un groupement social composite à la typologie variée. Je vais en dresser une simple liste avec de brèves notes, comme dans la notice des Gaules, Noticia Galliarum, rédigée au Ve siècle, qui énumère les provinces du Bas-Empire, notamment celle de l'Armorique. Si mes personnages ont tous des activités sociales, des professions diverses, pêcheurs, agriculteurs, postiers, etc., j'indique aussi leurs intérêts profonds. Voici donc. Aurélien Karadec, postier, spécialiste des bagaudes, ces bandes de paysans sans terre, de soldats déserteurs et d'esclaves qui parcouraient le nord-ouest de la Gaule entre les 3e et 5e siècles. Albert Conogan, maçon, spécialiste des roches les plus anciennes, en particulier le gneiss œillet. Yann Audierne, enseignant et géographe, spécialiste de Wegener et de la dérive des continents. Marie-Louise Labbe, ornithologue, spécialiste des foudbassans et des albatros. Ropars Rosarmor, libraire et historien. Études sur l'Historia Nova de Zosime et sur l'histoire secrète de Procope. Hans Polder, agriculteur, spécialiste de la révolte des gueux aux Pays-Bas et de la constitution de la République des Provinces-Unies. Yves Maclou, archéologue, a participé à des fouilles en Bretagne, en Sibérie et au Caucase. Mélanie Cariou, biologiste, recherche concernant la théorie du système ouvert. Jacques le Marailleur, marin-pêcheur, qui connaît la mer Celtique comme la paume de ses mains. Joachim Delamarge, marin-marchand, qui a fait plusieurs fois le tour du monde, de Brest à Vladivostok, de Glasgow à San Diego, en passant par le Cap Horn. Gabriel Maury, océanographe, spécialiste de géographie sous-marine, notamment le long de la dorsale atlantique. Jézéchiel Le Coatillou, économiste, spécialiste de la fiscalité impériale romaine. Stéphane Le Gallois, jardinier, spécialiste de la République des Florides sur l'île d'Amélie au XIXe siècle, inaugurée par l'aventurier écossais Gregor MacGregor. Lazare de Belle-Île, musicien, inventeur d'un nouvel instrument de musique qu'il appelle l'océanophone. Jean-Paul Anquetil, électricien, spécialiste du celte ancien, du picte et du basque. Louise Poncatelin, horticultrice et botaniste, spécialiste des Campanulaceae, dont elle a suivi les traces en Bretagne, en Écosse, en Finlande et en Corse. Jim Johnson, charpentier, études septentrionales et scandinaves, thèse en cours sur Olaus Magnus à l'université du Septentrion. Manolo Nada, menuisier, investigation sur l'anarcho-nihilisme en Galice et dans les Asturies. Soledad Aureli, infirmière, thèse en cours sur l'Imram Brain, le voyage de Bran à la Terre des Femmes. Erevan Scriabine, couvreur, spécialiste de Lermontov. Antonio Finimondo, secrétaire de mairie, spécialiste de Hegel et de Machiavel. Johnny Nakayaka, restaurateur, spécialiste de Chuang Tzu et du Zen. Il y a là tout un monde intime et spatial. Précisons pour terminer, provisoirement, que ces représentants du peuple pélagien que je viens d'évoquer ne sont ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Ils sont ailleurs. Et nous arrivons à la fin de ces lettres provinciales, de ces analyses analytiques, de ces extravagances eschatologiques, au lieu ultime. « Que fais-tu ?» disait Ozone à son ami Théon dans son livre des Épîtres, « habitant du bout du monde, poète cultivateur des sables, là où se couche le soleil et où s'ouvre l'océan. » C'était au IVe siècle de notre ère. 16 siècles plus tard, après une longue marche le long du rivage, je suis installée à l'hôtel de la plage, à Saint-Michel-en-Grève. Un petit café méditatif à portée de main, avec devant les yeux, cette vaste étendue de sable, souvent couverte de brume, aujourd'hui miroitant sous un soleil matinal d'automne. Pour la plupart des gens, le sable n'est qu'une matière sur laquelle on s'allonge l'été au moment des vacances. Bref, une autre sorte de lit. Pour d'autres, c'est un produit bon marché que l'on peut exploiter pour faire du béton et à partir du béton, des constructions. Et à partir des constructions, du capital. Et on constate à l'heure actuelle une valse mondiale frénétique. Aux dernières nouvelles, du côté de Dubaï, l'Arabie Saoudite importe du sable de construction provenant d'Australie. On appelle cela le globalisme et on parle de croissance. Revenons au territoire, pour le connaître, pour l'habiter profondément. Dans l'état actuel de notre savoir, nous divisons l'écriture de la terre en aires, en périodes, en étages et en zones. Il y aurait eu 4 aires, dites simplement primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, ou en termes plus savants, paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque et, puisque c'est dans le quaternaire qu'arrive l'homme, anthropozoïque. C'est avec l'homme qu'arrivent les dégâts. Avant lui, il n'y eut que des désastres. À l'intérieur des aires, il y a eu des périodes. Par exemple, dans le mésozoïque, le trias, le jurassique, le crétacé. Puis, à l'intérieur des périodes, les étages, ouraliens, ordoviciens, etc. Et à l'intérieur des étages, des zones. Je me remémore là mes connaissances géologiques de jeune étudiant. À un moment où, à partir de mon village, et plus tard de la grande ville, je sortais faire des promenades pélagiennes le long des côtes de l'Écosse. Sur le mur de ma chambre, j'avais une carte dite « géognostique », où les types de roches étaient marqués en couleurs. Jaune pour la craie, rose pour l'argile, vert pour le grès. Lors de mes marches le long de la côte ouest, par Hacinth, Applecross et Oldby, de l'Or Marais au Cap Ras, ou sur la côte est, du Loch Ness, le long du Moray Firth, jusqu'aux limites septentrionales de Caithness, il m'arrivait souvent de ramasser une poignée de sable, fragments de grès, de gneiss, de quartz, de feldspath, de mica blanc ou brun, avec l'impression, la sensation, d'avoir tout un continent dans le creux de ma main. Je me sais depuis longtemps natif du continent dit nord-atlantique, constitué à la suite des mouvements calédoniens, s'étendant des rocheuses américaines à l'Oural russe, comprenant avec l'Écosse et l'Irlande le bouclier scandinave, le Spitzberg, le Groenland. Je vis avec tout cela au fond de l'esprit. Par la suite, j'ai complété mes premières promenades pélagiennes par des excursions du côté des Lofoten et du golfe du Saint-Laurent, ajoutant à la logique géologique de base des notions d'écologie, depuis les fougères et les laminaires jusqu'aux bipèdes humains, en passant par les mollusques, les poissons et les mammifères. Et puis, il y a eu la côte atlantique du sud-ouest de la France, avec ses falaises rocheuses et sableuses, ses étangs et ses marais salants, que j'ai arpenté des années durant, accompagnant ses marches aquitaines de lecture de Strabon, de Pline l'Ancien, de Pomponius Mela, d'Ozone et de Sidoine Apollinaire. J'ai parlé d'étages, de zones, de strates. Mais on a beau avoir tout ce schéma en tête, c'est extrêmement rare, pour ne pas dire jamais, que l'on en ait une vision complète devant les yeux. Les mouvements de la Terre auront été tellement multiples que tout aura été chamboulé et altéré, de telle sorte que l'on n'y comprend plus rien, sauf si l'on saisit une logique assez particulière, capable d'intégrer toutes sortes de permutations et de combinaisons. C'est l'Écossais James Hutton, dans sa théorie de la Terre, sous-titré « Une investigation des lois observables dans la composition, la dissolution et la restauration des masses de terre du globe » et d'Edimbourg 1785, qui, le premier, mit cette logique en évidence, la résumant dans le terme de non-conformité. Si, ici ou là, face à une série marine, constatant la présence d'un étage de type 1 suivi d'un étage de type 3, on peut tirer une conclusion logique, entre l'étage 1 et l'étage 3, la mer s'est retirée, ailleurs, ce sera l'incertitude qui dominera. On n'est pas dans le domaine des idées fixes. L'écriture de la Terre est un perpétuel recommencement. Et puis, il y a le recommencement de l'être. Selon un penseur de la modernité finissante, nous aurions vécu trop longtemps sur l'illusion identitaire de l'homme maître volontaire de toutes choses, et le moment serait venu de voir cette image s'effacer, comme à la limite de la mer un visage de sable. Et un biophysicien de tirer les conséquences biophysiques de cette remarque philosophique en allant de la disparition d'un absolu imaginaire à la possibilité d'une existence à la fois ouverte et unifiée. C'est tout le propos de ce manifeste des marges. Je suis partie ce matin avec l'idée de composer 2 ou 3 pages supplémentaires de philosophie arénacée et de poéticité littorale. Peut-être trouvera-t-on, ici et là, quelques traces de ce projet dans les griffonnages que l'on vient de lire. Pour le moment, 11 heures viennent de sonner quelque part, je vais faire la grève autrement en contemplant le sable immémorial et la mer qui monte.